France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les aidants, on souffre de solitude parce que vous êtes seul chez vous. Quand les intervenants viennent, vous n'existez pas. Vous n'existez pas pour le médecin, vous n'existez pour personne, on ne vous écoute pas.
Alors, les difficultés principales, d'abord c'est l'épuisement. Forcément, il y a une charge mentale phénoménale. Et donc ça entraîne de l'épuisement physique et de l'épuisement psychique.
Je reconnais que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai pas mal d'aide, mais c'est indispensable parce que on pourrait devenir presque maltraitant, parce que c'est lourd, c'est très très lourd.
Ils ont un enfant handicapé, une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, un conjoint qui garde les séquelles d'un AVC. Alors ont-ils le choix ? Pour eux, la question ne se pose pas. Ils prennent soin de leurs proches, cherchent à soulager ses douleurs, à compenser sa perte d'autonomie, à lui rendre le sourire. Et parce qu'un enfant grandit, parce qu'une maladie évolue, ils partent sans cesse en quête de nouvelles solutions. En France, environ 11 millions de personnes soutiennent ainsi leurs proches. Animées par le sens du devoir, l'empathie, l'amour, elles endossent un rôle aux contours mal définis, peu reconnus, qui les amène à souffrir avec leurs proches, à déployer des efforts qui ne seront pas toujours récompensés, à frapper à des portes qui parfois restent fermées. Il leur arrive alors de ressentir colère, lassitude, désespoir. Et leur impuissance à régler les problèmes qui s'accumulent peuvent les rendre maltraitants vis-à-vis de leurs proches ou plus souvent d'eux-mêmes, car ils en viennent à s'oublier, à mettre leur propre vie entre parenthèses, un isolement qui les tire encore plus vers le bas. Une stratégie nationale de mobilisation et de soutien en faveur des aidants a été lancée fin 2019 avec la volonté de leur offrir des solutions de répit. Mais 5 ans après, la détresse et l'épuisement des proches aidants restent un problème majeur. Rompre la solitude des aidants, c'est un reportage signé Lise Verbeck. Bonjour Lise.
Bonjour.
Alors les aidants font face à beaucoup de difficultés et pourtant ils ont du mal à demander de l'aide. Comment ça se fait ?
Alors l'aidant passe généralement par plusieurs étapes. Son parcours commence avec la personne aidée quand le diagnostic d'une maladie tombe par exemple, ou de manière plus progressive quand il y a une perte d'autonomie. Il y a donc un laps de temps qui s'écoule avant que l'aidant puisse conscientiser son rôle et poser ce mot d'aidant. Il y a souvent une période de déni, difficile d'accepter la situation, de reconnaître un handicap ou de comprendre une maladie et ses conséquences, mais aussi la difficulté de faire le deuil d'une vie que l'on avait imaginée avec son proche. Ensuite, il faut encore du temps à l'aidant avant d'identifier ses besoins et ses limites. Et enfin, on arrive au moment où l'aidant accepte de demander de l'aide. Mais régulièrement, quand les aidants prennent contact avec une plateforme de répit, c'est qu'ils ont déjà atteint un stade d'épuisement important.
Avec nous en studio, Hélène Rossineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, spécialiste en santé publique, experte de la question des proches aidants. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet, dont le guide du proche aidant chez Pocket. Je vous propose tout de suite d'écouter le reportage de Lise. Nous partons à l'UDAF, l'Union des associations familiales de la Somme à Amiens.
Bon. Le café est prêt et on a même des touillettes.
Cet après-midi-là, une dizaine de personnes entrent dans la grande salle située au sous-sol.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Pour moi.
Autour de la table s'installent des femmes de tous âges, venues passer 2 heures ensemble pour ce papotage, un groupe de parole animé par Juliette Barnou, chargée d'études à l'UDAF.
Bienvenue, installez-vous. Bon, vous allez toutes bien ?
Très bien, merci.
Très bien. On essaye ?
Ces femmes ont tout un point commun. Elles sont aidantes d'un proche. Grands-parents, parents, frères, sœurs, enfants. Et dans cette bulle, elles s'autorisent à dire ce qu'elles taisent en dehors.
Alors moi, c'est ce que je vis avec ma mère. Voilà. Moi, c'était quelqu'un qui était négligente. Toutes les quatre, on l'a subi et on a grandi comme on a pu avec nos parents qui étaient comme ça. Mon père est décédé il y a 3 ans. Maman devient dépendante. On est obligé de l'aider. Mais en fait, on n'a pas forcément de sentiments. Enfin, c'est ce que je disais l'autre fois.
Oui,
c'est,
oui.
C'est des choses qui sont très difficiles. Oui. Mais il n'y a pas... Enfin, je suis dans le fait d'aider quelqu'un que je n'ai pas envie d'aider, en fait. Parce que je lui amène quelque chose qu'elle ne m'a pas amené, moi, quand j'en avais besoin. Et ça, c'est pas facile.
Alors, quand vous le décrivez, vous faites tout ça, en plus, dans une histoire de vie
qui fait aussi que vos relations ne se sont pas forcément tissées dans des formes de...
Plus classiques, voilà, en tout cas.
Voilà, je veux dire, Martine parlait de formes de rancune, mais de choses pas digérées, et qui forcément, là, on inverse les rôles, l'autre est aidé. Ben, comment je me positionne pour être à peu près bien avec tout ça, quoi? Et c'est effectivement... Ouais. Déjà, de le verbaliser, c'est important.
Alors, je m'appelle Edith, j'ai 48 ans et je suis animatrice auprès des enfants d'école et de centre de loisirs de la ville d'Amiens. Alors, c'est ma mère, la personne que j'aide. Ma mère a eu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, au début, la maladie prend pas forcément le pas sur son quotidien et tout ça. Et depuis le confinement et après le décès de mon père, en fait, sa maladie a beaucoup évolué, son état de santé s'est dégradé et petit à petit, elle a eu besoin d'aide de plus en plus au quotidien, mais aussi sur la gestion de la maison et du budget. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue aidante.
Dans l'aidance, en tous les cas, de ce que moi j'en ai compris, en fait, plus on est dans l'anticipation, plus c'est simple.
Dans le groupe de parole de l'UDAF, Edith a trouvé du soutien, notamment quand sa mère a été placée sous curatelle. Une situation compliquée pour elle et ses trois sœurs.
Ça implique une pression supplémentaire pour vous ?
Oui. il a fallu faire les démarches auprès de la banque. Le banquier, en tout cas, lui, était pas du tout au courant de ce que c'était. Donc, il a fallu d'abord que j'explique au banquier la situation. Alors que moi, je voulais que ce soit lui qui m'explique comment on fait. c'est une mise en route qui est pas facile. Bon, puis moi, c'est pas du tout mon domaine, l'aspect financier et tout ça. Donc, il a fallu que je m'y mette. Et puis après, l'autre pression, c'est quelque chose pour maman qui est pas facile. D'abord, nous, on a décidé une fois par mois de faire les comptes, de ventiler pour pas avoir à le faire qu'une seule fois dans l'année et que ce soit trop lourd. Et donc, une fois par mois, on va chez maman, on fait ça ensemble. Mais on épluche ses dépenses et c'est pas drôle, en fait. Et puis, le deuxième aspect, c'est que elle avait l'habitude d'avoir un chéquier, de continuer à faire des choses comme ça, et elle a plus le droit au chéquier. Et donc régulièrement, quand elle a quelque chose à régler par chèque et qu'elle ne se souvient plus qu'il y a eu ce jugement, elle m'appelle en disant, il y a eu le cas la semaine dernière. Elle m'a appelé en me disant j'ai pas mon chéquier, j'ai besoin que tu me le ramènes, j'en ai marre. Faut que tu me le laisses le chéquier parce que j'en ai marre d'avoir à t'appeler pour ça. Et donc je lui ai rappelé que c'était pas moi qui l'avais décidé, que c'était la décision de justice. Mais comme elle ne s'en souvenait plus, elle a cru qu'il y avait une nouvelle décision qui avait été appliquée. Enfin bref, ça nous met dans un moment de tension toutes les deux, qui n'est pas utile, quoi. Voilà. Mais bon, après, on arrive à discuter encore pour l'instant avec elle. Je ne suis pas toute seule. Moi, quand ça se passe avec mes sœurs, on est toujours en communication. Et donc, on se transmet l'info. Ce jour-là, il y a une de mes sœurs qui est allée là-bas, qui a pu lui redire. Enfin voilà, je ne suis pas toute seule et ça, c'est bien.
Vous y allez à quelle fréquence chez votre mère ?
Alors ça dépend. Ça dépend de ses besoins, ça dépend. Là par exemple cette semaine, moi j'y suis pas allée parce que j'y avais pas besoin, mais les 15 jours précédents, il y a eu besoin qu'il y ait quelqu'un chez elle tous les jours. Donc on a alterné avec mes sœurs parce qu'elle avait une baisse de forme qui faisait qu'elle pouvait plus se déplacer ou aller dans son lit toute seule, et donc là il a fallu qu'on soit là matin et soir et qu'on mette en place justement une aide en urgence pour pouvoir l'aider sur cet acte quotidien.
C'est ça aussi la difficulté quand on est aidant. La maladie peut évoluer, donc ça veut dire que les dispositifs qu'on a mis en place à un moment doivent évoluer à un autre moment aussi, doivent changer.
Oui, alors pour cette maladie-là, c'est ça. C'est une maladie qui évolue par palier et on n'arrive pas forcément, puis on ne sait pas forcément, moi je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas quelle est l'évolution de la maladie. Et en fait, on s'en rend compte au moment où il y a une évolution. Et donc là, la dernière fois, c'était des difficultés, une baisse de forme qui faisait qu'elle n'avait plus aucun tonus. Et il a fallu mettre en place tout ce qu'il fallait pour le matin et le soir pour pouvoir aller dans son lit et en sortir. Le reste de la journée, ça allait à peu près. Elle pouvait encore être tranquille à la maison.
C'est-à-dire que vous devez vous adapter en permanence ?
Oui, oui. On doit s'adapter et on doit prendre les décisions qui sont les plus justes. Et ça, c'est pas facile parce que ce que nous, on voit comme décision juste, quand je dis nous, c'est avec mes sœurs, c'est pas forcément ce que maman, elle voit comme juste pour elle. Et donc, il faut réussir à discuter et à mettre en place sans imposer. Et ça, c'est pas facile.
Vous avez un exemple ?
Là, par exemple, ça a été le lit médicalisé. Nous, ça fait plus d'un an avec mes sœurs qu'on se rend compte qu'elle a besoin d'un lit adapté pour sa pathologie, pour pouvoir y aller dedans plus facilement. Elle ne voulait pas jusqu'à présent. C'était vraiment difficile. Le lit représentait quelque chose pour elle. C'était trop de la maladie. Et donc, elle ne pouvait pas. Mais là, avec les difficultés qu'elle a eues il y a 15 jours, eh ben, c'est devenu une évidence. Et du coup, pour elle, c'est devenu une urgence. Et du jour au lendemain, il a fallu qu'on trouve un lit médicalisé et qu'on fasse l'installation. Et ça, ces moments d'urgence, c'est dur en fait. C'est stressant, c'est dur. Ouais.
Bon. Et si on souffre, c'est qu'on est en vie.
Ah mais oui, alors ben, ça, c'est une vraie question philosophique, ça. Hein, la souffrance, la vie.
Si on souffre, c'est qu'on est en vie.
Eh ben oui. Puis c'est une façon d'aller au-delà du fameux « ça va, oui, oui
». Le fait de... On ne peut pas répondre à ça.
Ben non, ça va, bah oui, ça va.
Mais comment vous réagissez, vous allez, ça va? Comment vous réagissez?
Ben non, pas du tout.
Des fois, je t'arrives à le dire.
Je m'amuse à faire ça, ouais, des fois où les gens, c'est un ça va vraiment de politesse. Je dis, ben non, pas du tout. Puis j'attends de voir comment les gens réagissent, en fait. Donc il y en a qui vont vraiment être dans l'accueil, ah bon, là t'as besoin d'en parler, tout ça, et d'autres... D'accord.
Et puis hop, j'espère que ça va aller, au revoir.
Ben moi aussi. Mais effectivement, la question du « ça va » pour un aidant, c'est pas n'importe quelle question.
Non.
Est-ce que c'est difficile à expliquer ou est-ce que c'est pour l'autre que c'est insupportable d'entendre?
Ben, ça dépend.
Je pense que c'est les deux. Dépend, puis c'est l'autre.
Ça va pas, etc. Puis on te répond « Oh là 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 là, moi j'aurais jamais le courage que t'as, j'y arriverai jamais. Je sais même pas comment tu fais. »
Ouais, je sais même pas comment
Ou alors c'est « Moi j'aurais pas supporté. Hein. »
Oui, j'aurais pas supporté.
Bah, t'aurais pas eu le choix.
Bah t'aurais pas le choix.
Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que les gens sont pas, c'est que les gens sont pas dans la même réalité aussi, en fait, justement, dans ces moments-là.
Ils ont l'air du curteur qui sont pas au même endroit.
Ouais, c'est ça. On n'a pas le même référentiel de vie.
Bah oui.
Ils n'ont pas été confrontés au problème, au même problème. Pour se comprendre, il faut avoir été confronté au même problème.
Lors de ce papotage, l'une des participantes, qui n'a pas souhaité être enregistrée, a eu des mots très forts. Elle est aidante de son mari, diminué après un AVC. Elle a fait part au groupe de sa grande fatigue et elle a lancé « Il me tue à petit feu, je mourrai avant lui ».
Bon courage.
Oui, merci.
Alors, les difficultés principales, d'abord, c'est l'épuisement.
Juliette Barnoux, chargée d'études à l'UDAF.
Parce que les dents, c'est 22 heures par semaine, hein, si je prends ici le nombre d'heures, en plus de son quotidien. Donc forcément, il y a une charge mentale phénoménale. Et donc ça entraîne de l'épuisement physique et de l'épuisement psychique. Ça, c'est déjà un très, très gros problème. La deuxième, c'est effectivement la gestion du temps. Si on est aidant, souvent, en plus, on est salarié. Donc, il faut réussir à se garder quand même des sas, des bulles, pour se ressourcer soi. Et ça, c'est très compliqué à organiser. Après, ils se retrouvent en grande difficulté, souvent, sur tout ce qui est gestion administrative, puisque les choses peuvent être assez cloisonnées. Ils peuvent avoir affaire à différentes administrations. Et donc, ça, c'est vraiment du temps, une complexité, ce qui fait que nombre d'entre eux, à partir du moment où ils font une demande et qu'on leur a fermé la porte, disent « bah non, j'ai le droit à rien, en fait ». Et donc, ça, c'est une vraie difficulté. Après, ça peut être la coordination aussi des services autour de la personne. Et la dernière chose qu'ils rencontrent, qui est encore forte, même si elle évolue, c'est le poids de la norme sociale. C'est-à-dire, c'est ton mari, c'est normal que tu t'en occupes. C'est ton enfant, c'est normal que tu t'en occupes. Alors oui, c'est normal, mais après, il y a une gradation entre la fonction parentale et les dents. C'est pas la même chose. Voilà, et c'est cette limite-là.
C'est bon, tout le monde voit à peu près ce qu'il y a encore. Après, le meuble noir, faut qu'on le descende.
Avec un groupe d'aidants, Juliette Barnoux a monté un projet de tiers-lieu en centre-ville d'Amiens.
Il y a un peu de peinture encore, la table qui est là, il faudrait la repeindre, la bleue là, il faut qu'on la repeigne en gris là.
Comme le gris là-bas.
Comme le gris, tu vois. De toute façon, c'est le seul peu de peinture qu'on ait, donc tout est gris. Parce que...
À quelques jours de l'ouverture, les bénévoles donnent un dernier coup de main pour aménager le lieu.
Et donc le tiers-lieu, son objectif, c'est vraiment de donner un lieu comme à la maison, pas du tout institutionnel,
pour que voilà, cette barrière-là ne soit pas déjà limitative. Et puis un accueil inconditionnel où on vient prendre un café, discuter, pas discuter, c'est vraiment au choix, lire son journal si on a besoin que de ça. Et après, avec des moments de convivialité, en fait, quand on a fait des questionnaires auprès des proches aidants, ce qu'ils demandaient, c'était ça, d'avoir des moments de convivialité. Alors nous, on appelle ça des papotages, où on vient une heure, un quart d'heure, deux heures si on veut, et où on peut discuter des danses ou pas de, des danses. Enfin, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce que les gens ont envie de déposer. Voilà, après, on n'y revient pas. Ce groupe-là fonctionnant très bien, maintenant on met en place des papotages pique-niques, c'est-à-dire entre midi et deux, même quand on travaille, donc on peut venir réchauffer son petit plat et discuter. Et puis à l'intérieur, c'est aussi proposer des aides administratives, justement, de l'orientation, nous de pouvoir faire le lien avec nos partenaires, et puis de proposer des activités. Alors sur les activités, moi je pensais qu'on allait avoir des activités de bien-être, que... Et en fait, étonnamment, il y a eu plein de proches aidants qui construisent le projet depuis le début, qui m'ont dit « bah moi, je veux animer quelque chose ». Donc on a des gens qui vont animer des groupes d'écriture, de la cuisine, voilà, d'autres activités. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'ils sortent de l'aidance pour se rappeler qu'ils ont d'autres compétences et donc de pouvoir partager, voilà. Après, le tiers-lieu, son objectif, c'est d'être très ouvert, très en phase avec la vie associative et en complémentarité de ce qui existe sur les danses. Donc, on fait un planning à un mois. Comme ça, s'il y a d'autres besoins, d'autres envies qui émanent des proches aidants, eh ben, qu'on puisse avoir cette souplesse d'y répondre. Donc, voilà, une cuisine, ben là aussi, comme à la maison, tout équipé. Voilà, avec Sylvie qui est en train de nettoyer, de ranger les verres.
Alors moi, je m'appelle Sylvie, j'ai 73 ans.
Sylvie a été aidante de son compagnon pendant 10 ans. Il souffrait d'une myopathie et il est décédé il y a un an. Ce projet de tiers-lieu lui tient particulièrement à cœur.
Les aidants, on souffre de solitude. De solitude, je crois que c'est le premier mot qui vient. C'est la solitude, parce que vous êtes seul chez vous. Quand les intervenants viennent, à part une rare exception que j'ai connue en 10 ans, les autres, vous n'existez pas. Vous n'existez pas pour le médecin, vous n'existez pour personne, on ne vous écoute pas. Mais c'est vrai que c'est le premier mot qui vient, c'est la solitude. Et puis après, moi, je suis venue là parce que je voulais faire bénéficier les autres personnes de mon expérience. Parce qu'elle a été très douloureuse, très difficile, puisque je suis allée au-delà de mes capacités physiques. Au-delà de mes capacités mentales, psychologiques, j'avais une charge mentale beaucoup trop élevée.
Pendant 10 ans, tout était centré sur votre compagnon. Oui. Vous vous êtes oublié pendant 10 ans.
Complètement, au point où je me suis rendu compte que quand je faisais les courses, je n'achetais que ce qu'il aimait. Et quand je faisais la cuisine, je faisais à manger pour lui. Et combien de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mange, moi? Ah ben, j'ai rien fait. Je faisais une assiette pour lui, je faisais un plat pour lui. Moi, je n'aimais pas forcément ce qu'il m'aimait. Et je me suis retrouvée bien des fois comme ça. Et là, je me suis dit, ça ne va plus. Et du moment où je me suis dit, ça ne va plus, en fait, ça a continué. Et là, j'ai commencé à chuter. Je me suis cassée la cheville. Je me suis cassée les dents en plusieurs chutes. Hein. Je me suis cassée le nez. Et après, je me suis démis le coude. Alors ma fille m'a dit, t'as compris, hein, il est temps que t'arrêtes, mais comment arrêter, c'est pas possible. Puisque même avec ma cheville dans un beau plâtre, j'avais été opérée, bah, il fallait, même si j'étais dans le fauteuil roulant dans la maison pour pouvoir circuler plus facilement, il fallait bien que je vide le lave-vaisselle, ne serait-ce que ça, que je lui fasse à manger, que bon, des courses, j'avais ma fille et puis une amie qui faisait les courses. Mais autrement, ça a été une période encore plus difficile pour moi parce que j'avais en plus un handicap.
À ce moment-là, en fait, votre corps a dit stop.
Il a dit stop, mais en fait, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté parce que je voyais pas de solution. Et quand il avait une solution, j'avais trouvé une solution de répit qui a duré 3 semaines. Mais c'était pas assez long, 3 semaines. En 3 semaines, j'avais absolument pas récupéré. Déjà, la première semaine, je l'appelais tous les jours où il m'appelait. Mais j'avais du mal à me poser. La deuxième semaine, et puis j'ai profité de rien. Hein. En fait, je profitais pas. J'étais aussi aux aguets que quand il était là.
Comme pendant 10 ans, vous avez vécu pour lui, je peux le dire comme ça. Là, ça veut dire qu'une fois qu'il était parti, vous avez dû réapprendre à vivre pour
comme
vous
avant. Pour moi et comme avant. il a fallu que je reprenne ma vie là où elle s'était finalement arrêtée pendant 10 ans. Et ça a été très compliqué, notamment avec ma fille qui m'avait aidée, parce qu'un jour, en fait, on s'est aperçu qu'il n'était plus là, mais on vivait comme s'il était encore là. Et ça, c'est pas faisable. Donc, elle me protégeait au maximum, comme avant, mais moi, j'avais plus besoin. Et donc, un jour, bah, c'est elle qui était fatiguée par son travail, qui a dit, écoute, on va mettre une distance, parce que c'est pas possible. Donc, on a mis cette distance. Ça a été lourd, c'était difficile. Hein. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait de mal. Mais elle était nécessaire. Je me rends compte que c'était nécessaire pour qu'on reprenne. Et maintenant, on a repris. On recommence doucement à reprendre notre vie d'avant. La vie classique, entre guillemets. Hein, avant la maladie, avant le fait que la personne, il était toujours dans son lit, avant ce fait-là. Ça, ça a été compliqué à revivre. Hein. Et je me suis dit, ben, cette expérience, entre guillemets, expérience de 10 ans, cette parenthèse dans ma vie de 10 ans, ben, il faut qu'elle serve à quelqu'un, il faut qu'elle serve. Parce que sinon, elle serait stérile. C'est pas mon but. C'est pas mon but, ça n'a jamais été. Donc, si je peux pas faire un peu bien bénéficier ou mettre en garde ou expliquer, après les personnes en font ce qu'elles veulent, mais si ça permet quand même de sentir mieux et puis de légitimer toute cette période.
Collectif Je t'aide.
Selon le collectif Je t'aide, 88% des Français ont déjà entendu parler du terme aidant, qui est de plus en plus connu, mais seulement 60% ont une idée précise de ce dont il s'agit.
Bienvenue du coup chez nous. C'est un immeuble partagé de plein de bureaux, avec surtout des start-up sur le sujet de la perte d'autonomie. Voilà, et donc on est quelques...
Je t'aide, c'est une association basée à Ivry-sur-Seine, créée en 2015, qui œuvre à la reconnaissance des aidants.
Les droits pour les aidants, il y en a seulement 2. Il y a le droit au répit et le congé de proche aidant.
Morgane Hiron, déléguée générale du collectif.
Le droit au répit a été créé en 2015. Il se traduit par une aide financière qui peut aller jusqu'à 500 euros par an, mais qui ne s'adresse qu'aux aidants qui s'occupent d'un proche en perte d'autonomie qui remplit certains critères. Donc on voit déjà que beaucoup d'aidants sont complètement exclus de ce dispositif. Et le deuxième droit, c'est un congé qui ne concerne que les personnes qui travaillent, du coup. Un congé qui s'appelle le congé de proche aidant, qui, pareil, exclut les aidants de personnes malades, parce qu'il ne s'adresse qu'aux aidants de personnes en situation de handicap, selon certains critères, et aux aidants de personnes âgées, selon certains critères. Ce congé de proche aidant, il permet de s'absenter pour pouvoir s'occuper de son proche, mais il est seulement à hauteur du SMIC, donc il n'est pas à hauteur de maintien de salaire, donc ça peut être un premier frein pour les aidants. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, encore aujourd'hui, c'est seulement un congé de proche aidant dans toute sa carrière. Ça va changer au 1er janvier 2025, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça poussait les aidants à choisir avec qui et pour qui je vais prendre ce congé, parce que pour rappel, il y a quand même 23% des aidants qui s'occupent de plusieurs personnes, donc parfois on doit faire des choix. Et puis le dernier frein à ce congé, c'est aussi une démarche administrative qui est complexe. Donc en résumé, des droits pour les aidants, il y en a seulement 2. Ils ne sont pas ouverts à tous les aidants et il existe encore un non-recours à ces droits, faute de communication, mais aussi faute de démarches complexes qui parfois découragent les aidants à activer ces droits.
En 2023, le gouvernement a mis en place un deuxième volet dans la stratégie nationale « Agir pour les aidants » jusqu'en 2027. Ce plan prévoit notamment qu'il y ait une plateforme de répit par département et la création de 6000 places supplémentaires dans toute la France.
À cette date, donc en octobre 2024, on n'a absolument aucune visibilité en tant qu'association sur cette stratégie qui a été annoncée en 2023. On est plusieurs associations à faire partie pourtant du comité de pilotage. Aujourd'hui, on n'a pas été réunis depuis plus d'un an. Alors même que la 15e édition de la Journée nationale des aidants vient de passer, on aurait pu croire que c'était justement le moment de relancer aussi ce sujet. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Donc on craint que effectivement très très peu de choses soient faites, que l'ensemble en fait des dossiers soit totalement à l'arrêt. Quand on voit aussi les discussions budgétaires par ailleurs, on craint aussi des coupes budgétaires dans le système de santé qui était déjà en grande fragilité et qui du coup repose à nouveau beaucoup sur les aidants. Donc c'est vrai que ça pose la question de ces annonces, des moyens dédiés. Aujourd'hui, quand on annonce 6000 places de répit, on sait même pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des places? Est-ce que c'est un nombre de personnes aidées? Est-ce que c'est du répit à domicile? Est-ce que c'est du répit hors du domicile? Ce mot répit, il est très large en fait. Et donc aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les aidants et les professionnels, aujourd'hui, sur le terrain, ne voient absolument aucune évolution, voire même voient plutôt des reculs dans la prise en charge. Et donc, c'est ça aussi qui nous inquiète collectivement.
Si elles ne sont pas assez nombreuses selon les territoires, l'utilité des plateformes de répit n'est plus à prouver pour Morgan Iron. Mais seulement 36% des aidants connaissent leur existence selon l'association. Dans la Somme, il y a la plateforme Alice, pour aide, lien, information, itinérance et soutien, qui existe depuis 2015. Elle propose, entre autres, du répit à domicile.
Mesdames, Tiffany, entrez. Le soleil.
Ce jour-là, c'est Tiffany, aide-soignante, qui vient pendant 2 heures chez Marie pour s'occuper de son conjoint.
Ça va. La maladie, elle avance. Hein.
D'accord. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue.
Oui, vous allez voir, ça avance bien.
D'accord. D'accord.
Entrez.
Merci.
Bonjour.
Tiffany.
Bonjour.
Il ne parle pas beaucoup. Dans la journée, il ne parle pas beaucoup. Si vous arrivez à le stimuler. Mais avec vous, il va sûrement faire un effort. Qu'avec sa femme, il fait... Alors je dis, c'est quoi C'est oui ou c'est non Bon.
Vous allez discuter un petit peu.
Je vais vous laisser parce que j'ai des courses à faire. Je vais en profiter.
D'accord.
Hein? Et puis, Gégé, je te laisse. Hein?
Alors, je m'appelle Marie, j'ai 73 ans et j'ai mon mari qui a une forme d'Alzheimer. C'est une angiopathie amyloïde. Depuis 3 ans et demi, décelé vraiment depuis 3 ans et demi.
Très bien. Il n'y a pas de consigne en particulier?
Non.
Ok, très bien.
Bon. Il risque peut-être d'aller aux toilettes, mais il marche très très de plus en plus mal. Forcément, il marche de moins en moins.
D'accord.
Est-ce que vous avez dû mettre en place des dispositifs pour l'aider lui au quotidien et vous aider aussi vous?
J'ai contacté donc l'accueil de jour. Il a commencé par une journée, puis après à ma demande une deuxième journée, une troisième journée, une quatrième journée. Je reconnais que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas mal d'aide, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que on pourrait devenir presque maltraitant, alors que parce qu'on avance en âge, que la maladie, quand il y a des moments d'opposition, c'est très difficile de garder son calme. Et puis que voilà, c'est.
Vous avez peur justement de devenir maltraitante à un moment?
Ça me fait peur des fois, parce que. C'est lourd, c'est très très lourd. Autant, par exemple, vous avez un cancer, vous êtes pris en charge, vous allez voir régulièrement les professeurs, les machins, et puis il y a des protocoles qui sont mis en route, mais pour ça, il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout, du tout. Quand on vous sortez de chez la gériatre, la neurologue, on vous dit, bon, ben c'est ça, la maladie, on fait un bilan, tous les ans, on fait un bilan. Ben, la maladie, elle avance, il a perdu tant de points sur l'échelle 2. Et puis, au revoir, madame. Débrouillez-vous.
Donc, je vais faire une course et je reviens, d'accord?
Il faut aller à l'urgence.
Hein?
C'est pas l'urgence.
Tu veux m'avoir à côté de toi? Non, je vais pas refaire ma course et je reviens.
Ok, on verra pour le contrat tout à l'heure.
Oui.
c'est vrai qu'on est un peu seul, quoi. Devant cette maladie-là, on est vraiment seul. Je pense que tous les aidants le disent, hein. Et même les plateformes où on peut échanger, c'est difficile d'y aller, parce que où on a la personne malade avec nous, ou on profite du temps qu'on a pour faire tout ce qu'il y a à faire.
Comment vous faites aider aussi hors plateforme de répit, accueil de jour?
Je vois la psychologue Alzheimer, de France Alzheimer, qui est une personne charmante et qui vient à la maison et pendant une heure et on discute. Et c'est pris en charge par la Sécu, enfin et la mutuelle, pour l'instant. Donc je le fais à peu près régulièrement, je le fais tous les 2 mois à peu près. La dernière, normalement, j'en ai eu besoin parce que j'étais arrivée à saturation. Puis j'ai parlé un petit peu des problèmes de l'accueil de jour. Et donc,
Vous sentez que ça vous fait du bien?
Oui, oui, parce qu'elle vous déculpabilise dès que vous sentez submergé ou angoissé pour la situation. Quoi.
Et bon, je reviens d'ici. Je serai là. Oh, je vous laisse.
Très bien. À la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.
Ça commence aujourd'hui.
Vous avez vu vos enfants récemment? Vos enfants, vous avez vu vos enfants récemment?
J'étais à l'arrière.
Vous êtes miraculé. Ouais. Il y a 8 jours, mon fils.
D'accord. Vous êtes bien devant la télé. Assis confortablement dans votre canapé.
Mais je retourne, c'est bien.
La plateforme de répit Alice propose aussi aux aidants des rendez-vous avec des psychologues à domicile.
Je suis Monsieur Bourbion-Emeric et je suis responsable de la plateforme de répit Alice qui gère également un accueil de jour itinérant.
Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes?
Ça va dépendre en fait des missions, sur quelle mission on veut répondre. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'accompagnement des psychologues, par le fait que la plateforme a encore besoin d'être reconnue, aujourd'hui, on arrive à suivre sur les demandes entretien avec les psychologues. Maintenant, on sait très bien que si la file active elle double avec les effectifs qu'on a aujourd'hui de psychologues, on n'arrivera pas à suivre. Un autre exemple, sur le répit à domicile, on est plus en difficulté parce qu'on commence finalement à avoir un volume qui peut faire que notre équipe n'est pas suffisante pour. Donc la question de suivre la demande, elle n'est pas tant finalement sur est-ce qu'on a les moyens pour suivre, il y a aussi une notion de parcours de l'aidant. Et ça, c'est un sujet qu'il faut de plus en plus aborder parce que le parcours de l'aidant, ça va être, exemple sur le répit à domicile, on a permis à l'aidant de se rendre compte que le répit à domicile peut lui apporter, et nous, notre travail va être de se dire comment derrière on peut lui apporter les outils et le dispositif pour la pérenniser, cette démarche. Parce que la plateforme de répit, c'est pas forcément son rôle d'être dans la pérennité elle-même du répit à domicile. Donc on a des réflexions, on a des discussions qui sont en cours avec des acteurs comme le département. Aujourd'hui, on a des plans d'aide qui permettent au niveau de l'allocation personnalisée autonomie APA de récupérer du temps pour pouvoir faire du répit à domicile, d'aller proposer au service du département des coopérations, des partenariats, pour aller chercher ces temps, ces financements, qu'ils puissent être orientés vers une auxiliaire de vie, vers un service à domicile, qui lui va pouvoir aussi diversifier son intervention à domicile, et pas que sur du ménage, pas que sur l'aide au repas, mais d'aller peut-être faire aussi ce répit à domicile après la plateforme de répit. Quand la plateforme de répit aura posé les bases, inclut le bénéficiaire dans cette démarche-là, et puis la plateforme de répit peut réaliser une fois tous les 6 mois, une fois par an, un autre répit à domicile pour voir comment ça évolue. Donc cette notion de parcours de l'aidant, elle peut nous permettre aussi de travailler sur comment réussir à faire face à l'activité et puis aux demandes.
Sur les 11 millions d'aidants en France, un tiers ne se reconnaîtrait pas comme tel.
Bonjour.
Catherine a 77 ans. Elle vit à Amiens avec sa fille de 38 ans.
Oui, c'est ça. 20 ans, Sarah. Voilà. On ne croirait pas comme ça, mais je suis une aidante.
Où est votre aidée?
Mon aidé est en hôpital de jour.
D'accord, ok.
Le mardi et le jeudi.
D'accord.
après-midi.
Je vous laisse un peu de répit.
Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit plus tôt aujourd'hui.
Ouais, c'était plus facile pour vous.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a, votre fille ?
Alors, elle est à la fois malade physique et malade psychique. Donc, elle a un gène de la mucoviscidose qui s'attaque à son pancréas. Et puis, suite à une agression, elle est suivie par un psychiatre. Elle a des troubles du comportement alimentaire, agoraphobie, syndrome de Diogène, beaucoup de choses comme ça, quoi.
Est-ce que vous vous considérez comme telle ? Est-ce que ce mot aidante, il est venu depuis le début que vous vous occupez de votre fille ? Ou c'est venu petit à petit ?
Ben, moi, je suis sa mère. Donc, je l'aide, c'est normal. Je suis sa mère. Je suis plus sa mère que son aidante. Moi, pour moi, je suis plus sa mère que son aidante.
Et vous diriez que le plus difficile pour vous, en tant qu'aidante, c'est le handicap physique de votre fille ou le handicap psychique ?
Le handicap psychique, c'est difficile. C'est difficile parce que, on marche toujours sur des œufs. Hein. On ne sait jamais ce qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Hein. On sait que c'est compliqué, c'est très compliqué. J'essaie d'éviter les mots qu'il ne faut pas. Mais... pour tout, pour rien, c'est tout de suite explosif, quoi. Elle n'est pas violente, mais tout de suite, c'est vraiment... Je dis la moindre chose, c'est...
Comment vous voyez l'avenir ?
Ah là 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 là, ça c'est la grosse question. C'est la question de tous les parents d'enfants. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Je lui laisse une maison. Et puis, c'est tout ce que je peux faire.
Est-ce que quelqu'un, à un moment, pourra prendre votre relais, devenir son aidante ?
J'ai un frère qui est très gentil. Donc, je pense qu'il... Mais c'est mon jumeau. Donc, on a le même âge. Oui. Bon, et puis ma fille, elle a. J'ai longtemps cru que j'allais la perdre. Plusieurs fois. Son pronostic vital a déjà été engagé plusieurs fois. Donc. J'ai cru longtemps qu'elle allait partir avant moi. Moi maintenant, parce que bon, avec les progrès qui se font, ce sera compliqué. Ce sera très compliqué. J'essaie de rester, d'avoir une vie assez saine pour pas.
Le plus loin possible.
Voilà, c'est ça. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de la laisser.
La destination se trouve sur votre droite.
Catherine va régulièrement au groupe de parole pour les aidants de l'UDAF. Elle y discute souvent avec Isabelle, qui elle aussi s'occupe de sa fille de 35 ans. Isabelle habite un petit village à une trentaine de minutes d'Amiens.
Merci.
Amandine, sa fille, passe 3 jours et demi en institut spécialisé et le reste de la semaine chez elle.
J'aime pas trop parler d'aidants. J'aime... En fait, on accompagne... Elle m'accompagne autant que je l'accompagne. Alors ok, elle parle pas. Elle fait rien d'autre que manger toute seule. Mais elle est remplie d'amour. Elle adore qu'il y ait la fête, qu'il y ait des gens, qu'il y ait, quand ça bouge. Une âme pure qui se nourrit de la joie. De la joie. Alors ce qui fait que, oui, c'est très dur. Oui, quand il y a 6 ou 7 changes par jour, parce que forcément l'incontinence, vu le degré d'handicap, est là. Juste, elle pose son regard sur moi. Et j'ai tout l'amour du monde. Du coup, oui, même si on a des corps qui sont abîmés, on vieillit plus vite, on est plus vulnérable. Moi, elle ne parle pas du tout. Il n'y a pas un son qui sort, il y a... des regards, cette communication non verbale là qui est tellement plus riche et qui est tellement vraie. Elle est là, en fait, moi j'ai beaucoup à apprendre d'elle, de sa sagesse, de son respect pour l'autre. Elle sait que je l'aide. Je lui dis tout le temps, je serai toujours là pour toi et j'ai pas besoin de lui dire, mais elle le sait, mais bon, moi ça me fait du bien de lui dire, voilà. Et en fait, quand je suis au bout du bout, de fatigue, de douleur physique, parce que même si j'aurais adoré être danseuse contemporaine, en fait, j'en ai un peu parce qu'à force de se contorsionner pour m'occuper d'elle, je peux faire tous les mouvements que je veux avec mon corps, quoique nos corps sont très sollicités quand on est aidant. Et pour le coup, d'un seul regard qui est posé sur moi, où elle me... Ben voilà, elle me, ça veut dire, ne t'inquiète pas maman, je suis là. Et elle avance le front, ce bisou du front, parce que c'est sa façon d'embrasser, elle avance très royalement le front. Et ce regard, en fait, je pense que ça vaut tous les antalgiques de la terre, en fait. Et là, je suis remplie d'amour et tout va bien. Voilà. Et j'ai pas le droit, moi, derrière ça, parce que je me dis, mais j'ai pas le droit d'être... J'ai pas le droit de me plaindre, en fait. C'est elle qui devrait se plaindre, et elle se plaint pas. Jamais.
Rompre la solitude des aidants, c'était un reportage de Lise Verbeek avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le docteur Hélène Rossineau, experte de la question des proches aidants, est avec nous pour commenter et prolonger ce reportage. Vous avez entendu Isabelle qui ne se sent pas autorisée à se plaindre et qui trouve sa récompense dans le regard de sa fille. Mais cette gratitude qu'Isabelle reçoit, les aidants n'y ont pas tous droit. Pour ne pas perdre totalement courage, où peuvent-ils trouver un peu de reconnaissance, Hélène Rossineau ?
Malheureusement, la reconnaissance, elle est compliquée à obtenir encore aujourd'hui. On la trouve très peu dans le regard des autres autour de nous, parce que c'est très peu valorisé de s'occuper d'un de ses proches. Tout le monde prend ça pour acquis. Ceux qui ne le vivent pas n'ont aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Et donc, c'est vrai qu'au quotidien, quand quelqu'un vous dit « j'aide ma mère âgée », les réponses que vous aurez dans la majorité des cas, ça « ok, bah c'est bien ». Et donc, c'est vrai qu'obtenir de la reconnaissance, je pense que c'est le plus difficile, peut-être encore plus que d'obtenir un peu d'aide. Les professionnels de santé connaissent pas encore bien le sujet. Les entreprises commencent un tout petit peu à s'y intéresser, mais ça met du temps. Les politiques, vu les plans qui sont sortis les uns après les autres, on peut pas dire que la reconnaissance soit exceptionnelle, venant d'eux non plus. Donc je dirais que la reconnaissance, c'est nous. Vous qui faites ces reportages, les associations qui travaillent, ceux qui écoutent et donc qui s'intéressent au sujet, c'est nous qui pouvons d'abord leur apporter et qui feront bouger les choses au fur et à mesure.
Et alors ce qui fait que l'on devient aidant et en même temps ce qui fait que c'est particulièrement difficile, c'est la relation affective qu'on entretient avec la personne que l'on aide. On souffre de l'avoir en difficulté, on souffre dans certains cas de la perte, du fait que cette personne n'est plus tout à fait comme avant. Comment cet engagement émotionnel peut-il être accompagné et apaisé?
Alors je pense que c'est important de l'accompagner sur le plan psychologique dès le début. Alors vous l'avez dit, pour beaucoup de personnes, c'est la relation d'amour qui joue et d'empathie, mais pas pour toutes. Et on l'a entendu d'ailleurs dans votre reportage, pour certains c'est une obligation, un devoir qu'elle s'impose, malgré des relations compliquées, malgré parfois une absence d'amour, voire de la maltraitance antérieure. Il y a aussi des personnes, et on l'a moins évoqué, qui souffrent de problèmes financiers, qui ne peuvent pas, par exemple, payer un établissement, que ce soit un EHPAD ou autre, et qui donc font ce qu'elles peuvent à domicile avec les moyens du bord, et qui aimeraient parfois faire différemment. Donc c'est vrai qu'il faudrait réussir à accompagner tous les aidants pour que ceux qui font le choix d'être aidants puissent être accompagnés et que ça se passe le mieux possible et que ceux qui ne souhaitent pas l'être ou qui sont dans des situations qui sont très compliquées puissent aussi faire le choix de ne pas l'être et n'aient pas à se retrouver dans des situations qui sont extrêmement douloureuses. Et ça, je pense que c'est important de mettre le doigt dessus parce qu'on est dans une politique du tout domicile, on fait tout pour le patient, mais les points de vue des patients et ce qui est bon pour les dents, c'est pas forcément toujours aligné, parfois c'est même bien opposé. Donc je pense qu'il faut qu'on interroge cette notion de choix.
Alors c'est quand même dur de ne pas culpabiliser puisque une personne en perte d'autonomie qui n'a pas de proche aidant se retrouvera beaucoup plus tôt en établissement. Alors on sait, hein, les études le disent et le redisent, que les Français, eux, ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible.
Tout à fait. Et la culpabilité, je pense que c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas vraiment échapper quand on est aidant à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que tout le monde le dit, on n'en fait jamais assez. C'est jamais assez bien. Et puis, si tant est qu'on arrive à faire quelque chose de bien, par exemple, pour le proche, de l'autre côté, si on ne s'est pas assez occupé de ses enfants, on n'a pas passé de temps avec le conjoint, on a parfois un peu moins travaillé, on culpabilise vis-à-vis des autres. Donc, de manière générale, on va culpabiliser. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal, hein, parce que normalement, quand on culpabilise, c'est parce qu'on fait quelque chose de mal. Mais quand on est aidant, pas du tout. C'est la boussole morale est déréglée. C'est simplement qu'on veut que tout soit parfait, ce qui est humain. On veut que le meilleur pour notre proche, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à s'approprier la situation telle qu'elle est. Bien entendu, il y a des personnes qui vont aller en établissement, mais personne n'a envie d'être malade non plus. Aujourd'hui, en EHPAD, la majorité des patients sont des patients qui sont malades, qui ont une maladie qui a évolué et pour lesquels le maintien à domicile est extrêmement compliqué. Donc, bien entendu que, dans l'absolu, personne ne veut être malade, personne n'a très envie de vieillir non plus. On s'imagine tous en pleine forme jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, encore une fois, il faut qu'on puisse trouver les meilleures solutions adaptées à toutes les situations.
Alors justement, la question, c'est quelles sont ces solutions? Parce qu'alors effectivement, il y a des relais des intervenants à domicile, par exemple, alors qu'il faut déjà coordonner, kiné, les soins d'hygiène, repas, ménage, aide administrative, etc. Et puis, il y a donc toujours un reste à charge. Hein. Vous avez évoqué rapidement la question financière, mais c'est essentiel. Et ça commence à coûter cher, en particulier s'il faut revenir à la nuit. Or, il se trouve que la nuit, ce serait dans l'absolu la première nécessité pour les aidants, pour qu'eux, ils puissent dormir à peu près.
Effectivement, en particulier dans les pathologies comme Alzheimer, par exemple, ou autres, une aide la nuit donnerait un vrai coup de main. Particulièrement dans cette pathologie, les patients ont tendance à rester éveillés pendant la nuit et à dormir le jour. Donc si, mettons que vous alliez travailler le lendemain et que vous avez votre maman à domicile qui a Alzheimer et qu'elle passe sa nuit à tourner en rond dans votre appartement, vous vous fermez pas l'œil, forcément. Et donc pour aller travailler le lendemain, c'est assez compliqué. Mais c'est clair que tout ce qui est emploi de personnel à domicile, si tant est qu'on arrive à en trouver, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi une vraie crise des embauches dans ce domaine-là. Donc si tant est, vraiment, si qu'on arrive à trouver les bonnes personnes qui soient formées et qui puissent intervenir, c'est clair que ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup d'expérimentations ces dernières années sur ce qu'on appelle le relayage ou le baluchonnage, que moi je trouve fantastique, très honnêtement. J'aimerais bien qu'on arrête d'utiliser le mot expérimentation et qu'on pérennise ça, mais il faut effectivement trouver un moyen qu'on puisse se le payer, parce que le reste à charge est extrêmement important. Donc encore une fois, mettre des moyens derrière ce qu'on veut, puisque si on veut que tout le monde puisse avoir une chance de rester à domicile, il faut faire en sorte que les familles puissent l'organiser correctement. Sinon, c'est maltraitant pour tout le monde.
Et une difficulté supplémentaire, donc quand l'offre existe, c'est que certaines personnes aidées refusent l'intervention des professionnels et ne font confiance qu'à leurs proches. Ça se gère, ça ?
Ça se gère. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut faire intervenir les professionnels. Que ce soit le médecin, parce qu'un argument d'autorité, parfois, ça fonctionne encore sur les patients. Que ce soit les équipes soignantes de manière générale. Il faut parler aux patients. Parce que, effectivement, souvent, une des personnes qui culpabilise le plus les dents, c'est son proche. Alors, ils le font pas forcément exprès, hein. Et ça peut être très compréhensible qu'on n'ait pas envie de voir des inconnus rentrer dans notre domicile, s'occuper de nous. Mais la question des limites, et cette discussion-là, elle est très, très, très importante pour les aidants, pour que ça tienne longtemps. Donc, il faut qu'on arrive à trouver souvent un troisième interlocuteur, un peu neutre, qui va permettre d'amorcer la discussion et de pas rester sur des points de vue extrêmement secs. Non. Et rien de plus, ou oui, rien de plus. Il y a de la nuance, forcément, c'est de l'humain, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc que ce soit un psychologue, un médecin, une infirmière, une plateforme de répit, trouver le bon professionnel qui va aider à faire le lien et à remettre de la discussion pour qu'on puisse négocier, parce que ce sont des négociations.
Alors, les premiers interlocuteurs, ce sont les professionnels de santé quand les premiers symptômes amènent à consulter. Ce sont eux qui, ensuite, peuvent le mieux orienter les aidants. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, j'ai l'impression.
Non, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne maîtrisent pas du tout le sujet des aidants, si tant est qu'ils connaissent même le terme et qu'ils l'utilisent. Ça dépend des spécialités. Il y a des spécialités comme Alzheimer où c'est clair que tout le monde maîtrise le thème puisque les familles sont présentes depuis très longtemps. Il y en a d'autres dans lesquelles on commence seulement à regarder les aidants et à leur parler. C'est pour ça que j'ai travaillé sur prendre soin des aidants qui, lui, est à destination des professionnels de santé et de l'accompagnement. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui. On ne les forme pas quasiment sur le sujet. C'est toujours pas dans les études de médecine, quand même, le mot aidant dans le tronc commun de 6 ans. C'est quand même fou. On demande aux médecins à raison de prendre soin des aidants et personne ne leur dit ce que c'est. Moi, j'ai des témoignages d'aidants très régulièrement qui me disent je suis passée aux urgences, par exemple, on m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai répondu aidant, et on m'a répondu c'est quoi ? Comment est-ce que vous voulez que les choses avancent si on ne forme pas les professionnels correctement ? Parce qu'ils ont un vrai rôle à jouer, même sur la reconnaissance en tant qu'aidant. Parce que bien entendu, on commence à connaître le mot. Mais pour beaucoup, le mot est violent, il ne représente pas leur quotidien. Quand on l'entend de la part d'un professionnel qui désacralise complètement et qui vous dit « bon, bien entendu, vous restez la fille, la mère, l'épouse, etc. » Mais sachez qu'il y a un terme qui représente ce que vous faites au quotidien, qui s'appelle « aidant », qui va vous donner accès à quelques droits. Maigre, certes, mais bon, quelques-uns quand même, à une communauté, à des associations, ça aiderait beaucoup de personnes à se reconnaître comme aidant et à ce que ce soit un pas plus simple. Mais encore une fois, pour ça, il faut que les professionnels soient au courant et osent le faire et aient le temps de le faire correctement.
Et alors, chaque situation est particulière. Hein. La difficulté, c'est de trouver les meilleures solutions ou les moins pires. Les aidants sont souvent perdus, ils ont besoin d'être orientés. Donc, qui peut vraiment les aiguiller dans toutes les solutions qui peuvent parfois exister, mais que les gens ne connaissent pas ?
Et c'est bien le souci, on a beaucoup de solutions qui existent, mais comme d'habitude en France, comme on n'a pas vraiment de guichet unique, ça part dans tous les sens. Moi, ce que je retiens, je pense qu'il faut faire simple. Quand c'est en lien avec la pathologie, les équipes soignantes du patient souvent sont bonnes, surtout ce qui est éducation thérapeutique et parfois associations comme France Alzheimer par exemple ou autres. Ça fonctionne bien. Sur le côté des aidants, il ne faut pas hésiter à aller regarder des grandes associations qui après referont le tri, comme par exemple Avec nos proches, qui est une association qui fonctionne très bien, qui permet d'écouter les aidants et de rediriger vers des solutions, ou le collectif Je t'aide qu'on a entendu dans le reportage. Et quand on a une situation qui est complexe, parce qu'on ne parle jamais d'eux, et pourtant il y a des pépites dans chacun des territoires qui ont pour but la coordination des cas compliqués. Et Dieu sait que certains cas sont très compliqués, en particulier sur le maintien à domicile. Ça s'appelle les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et on peut les contacter soit quand on est professionnel de santé, soit quand on est civil, entre guillemets, aidant ou patient. Et eux connaissent tout ce qui existe sur le territoire et aideront à trouver des solutions à ces cas qui peuvent être compliqués. Donc c'est vraiment important de le savoir parce que parfois même les professionnels de santé ne savent pas qu'ils sont là et pourtant ce sont des services qui sont extrêmement importants. Et eux vous diront derrière aussi quels sont les bons interlocuteurs parce que sur tous les territoires, bien entendu on a les grandes aides habituelles, la mairie, le département, mais sinon les associations sont toutes différentes donc c'est toujours difficile de donner des conseils. Mais par contre, le DAC, il y en a un sur chacun des territoires. Donc il est trouvable, il suffit d'aller sur internet, vous tapez le DAC, le nom du département concerné et vous aurez toutes les coordonnées.
Alors, il y a une journée nationale des aidants qui a été mise en place. Il y a des plans qui ont été lancés par les gouvernements. Ces dispositifs, que deviennent-ils au juste ? Il y a quand même des choses qui ont été faites avec le congé proche aidant, avec la mise en place de plateformes de répit.
Alors, très honnêtement, le plan de 2019 partait bien. Et ça n'est vraiment pas une critique politique, là, mais il a été balayé par le Covid derrière, ce qui fait que trois quarts de ce qui était prévu ont disparu, y compris d'ailleurs, puisque je m'en souviens encore de ce jour-là dans le discours, les aidants étaient censés être une des priorités du quinquennat en 2019. Bon, 6 mois après, les proches, et pendant toutes les années de la crise sanitaire, clairement n'ont pas été la priorité dans la prise en charge. On a eu beaucoup de mal à cette période-là. La deuxième partie du plan qui est sortie en 2023... J'ai besoin de plus d'efforts de diplomatie pour répondre. Disons que c'est pas du tout adapté à la situation aujourd'hui, ça va pas assez loin. On en parle dans le reportage, mais 6 000 places de quoi ? Pour combien d'aidants ? Même pour être très honnête avec vous, quand le plan a été annoncé, il a été annoncé par un grand entretien dans un journal de presse quotidienne régionale dont je ne mentionnerai pas le nom, par la personne qui en était en charge à ce moment-là. Et très honnêtement, quand on lisait l'interview, elle terminait par quelque chose comme « Grâce à nous, plus aucun aidant ne se sent isolé aujourd'hui ». Alors, Je pense que rien que le reportage suffira à montrer que...
C'est pas encore tout à fait ça.
C'est pas encore tout à fait ça, et là aussi, c'est la version diplomate. C'est très, très en-delà de la réalité, le plan qui est sorti en 2023. Aujourd'hui, on est complètement à l'aveugle. Je partage les craintes du collectif Je t'aide sur les coupes budgétaires qui pourraient arriver et sur l'absence de vrai pilotage sur le sujet. Ce qui pose quand même question, parce qu'on parle quand même d'un 11 millions de personnes en France, une bonne partie de la population, et encore, ce sont les derniers chiffres qu'on a, mais parce qu'on fait très peu d'études chez nous. Quand on regarde des pays qui nous ressemblent, on a vu une flambée du nombre d'aidants avec le Covid, qui a touché majoritairement les personnes vulnérables et âgées. Donc forcément, les États se sont dégradés, donc le nombre d'aidants a augmenté. Donc je pense que notre 11 millions n'est plus vraiment à jour aujourd'hui. À mon avis, on est plus haut. Beaucoup d'économies à notre système de santé, certes, mais c'est à très court terme, parce que si nos aidants tombent malades et craquent, il va bien falloir que quelqu'un récupère les patients et s'en occupe, et ça va être le système de soins. Donc on n'est pas très très loin de craquer, sans vouloir être trop noir et négatif, le système n'est quand même pas très très en forme aujourd'hui, donc il y a vraiment urgence à prendre en charge les aidants et à les accompagner, parce que si eux lâchent, je donne pas cher du reste du système de santé, très honnêtement.
Sachant que même une plateforme de répit, ça n'est pas la solution idéale. On entendait dans le reportage de Lise que, en fait, il faudrait presque accompagner les dents pendant cette période de répit, entre guillemets, pour qu'elles en profitent vraiment.
Exactement. Alors, les plateformes de répit, elles font ce qu'elles peuvent et elles font un boulot fantastique. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui est extrêmement difficile pour les aidants et pour beaucoup de gens de manière générale, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas parce qu'on est loin du patient qu'on ne pense pas aux patients. Et en général, plus on est loin, plus on culpabilise. Vous vous rendez compte, on s'est fait passer avant quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui a besoin de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'occuper de nous. Et il y a beaucoup de gens qui se pourrissent la vie, beaucoup d'aidants qui ne lâchent jamais prise et qui reviennent parfois encore plus fatigués qu'autre chose parce qu'ils ont angoissé tout le temps. Donc c'est pour ça que, et je l'ai entendu aussi dans le reportage, je travaille sur ce concept depuis longtemps, le mot parcours de l'aidant est extrêmement important parce que si on met des solutions par-ci, par-là, sans coordination, sans stratégie, et sans adaptation à la personne qu'on a en face de nous, eh ben on obtiendra des gens qui feront ce qu'ils peuvent avec les solutions et les moyens du bord, mais qui ne seront pas vraiment aidés et soulagés. Donc en fait, on passera à côté. C'est un peu la même chose dans les entreprises. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont vers des startups ou autres qui disent « je voudrais par exemple offrir telle ou telle solution à mes salariés aidants pour dire que j'ai fait quelque chose ». Parce que dans 5 ans, un quart des salariés français sera aidant, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc ils disent, on va leur offrir une assistante sociale ou un psychologue ou quelque chose comme ça pour dire qu'on a fait quelque chose. Et après, personne ne l'utilise. Et derrière, moi, ils me disent, regardez, du coup, on n'a pas d'aidant. Non, vous avez, le problème a été pris dans le mauvais sens. C'est parce que vous n'avez pas fait toute la sensibilisation, tout l'accompagnement de vos salariés, parce qu'ils ont peur de vous dire qu'ils sont aidants, qu'ils n'ont même pas réalisé qu'ils étaient aidants, qu'ils ne sont pas allés chercher le service. Et donc, personne ne l'a utilisé. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'aidants.
Donc, qu'est-ce que vous leur préconisez, vos entreprises que vous accompagnez?
De faire changer les regards en interne. C'est le plus important. On l'a vu en Australie, en 2015, il y a une loi, c'est le seul pays qui a fait ça, qui force les entreprises à proposer, par exemple, un emploi du temps flexible aux salariés aidants qui en font la demande. Donc, on aurait pu se dire que tout le monde allait demander ça à tous les aidants. Pas du tout. En fait, les études qui sont passées derrière ont montré que si la culture interne était restée la même, que c'était toujours tabou, qu'il y avait toujours les mêmes préjugés qu'il y avait sur les femmes il y a quelques années avec les enfants. À partir du moment où vous aidez quelqu'un en dehors du travail, tout le monde imagine que vous n'êtes plus intéressé par votre travail, que vous serez tout le temps absent, ce qui est complètement faux, on le sait, mais bon, il y a toujours des gens qui ont ces idées en tête. Bref, à partir du moment où il y a encore ces préjugés en interne, même si c'est un droit légal, les gens ne le demanderont pas. Donc, la première chose à faire, l'urgence, c'est de faire évoluer la culture interne. Et après, on peut réfléchir aux solutions qui existent, parce qu'il y en a. Et c'est des solutions qui doivent exister entreprise par entreprise, puisqu'il n'y a pas deux entreprises pareilles. Mais d'abord, et c'est comme partout, la reconnaissance, c'est le plus important.
Merci Hélène Rossino.
Avec plaisir.
Rompre la solitude des aidants, un grand reportage signé Lise Verbeek et réalisé par Annie Brault. Noé Chaban était à la technique aujourd'hui. Merci à Corinne Chauvel et Véronique Le Faller pour la documentation. Vous pouvez réécouter et partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.